Il y a ceux qui se mettent tout devant et ceux qui se mettent tout au fond. Les retardataires, obligeant l'ensemble des participants à commencer en retard les réunions, seraient-ils en passe de gagner la bataille ? Il est fou combien, en grandissant, nous continuons à porter en nous nos angoisses et nos habitudes, nos difficultés et nos obsessions. Et vous, l'adulte a-t-il dépassé ce que vous étiez enfant ?
Et pour finir cette édition, comme chaque jour, l'histoire juive du jour avec Jérôme Attal, et on retourne cette fois en 1940.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 17 juin 1940, le maréchal Philippe Pétain s'adresse aux Français. C'est un tournant décisif dans l'histoire de France. Depuis le 10 mai 1940, l'armée allemande menait une offensive fulgurante en Europe de l'Ouest et les forces françaises sont rapidement submergées. Le 14 juin, Paris est occupé. Et face à cette situation, le président du Conseil, Paul Reynaud, partisan de la poursuite des combats, démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, qui privilégie la cessation des hostilités. Rappelons qu'il n'a jamais été élu président de la République. Le 17 juin, à 12h20, Pétain s'adresse à la nation à la radio pour annoncer son intention de demander l'armistice. « C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Fin de citation. Cette déclaration surprend une partie de la population et des responsables politiques. Certains envisageant la poursuite de la lutte aux côtés du Royaume-Uni. Le général de Gaulle quitte Bordeaux pour Londres et dès le lendemain lance son célèbre appel du 18 juin exhortant les Français à continuer le combat. Les négociations aboutissent à la signature de l'armistice le 22 juin 1940 dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. Les conditions imposées par l'Allemagne sont sévères. Occupation de plus de la moitié du territoire français, maintien en captivité de plus d'un million de prisonniers de guerre et lourde indemnité financière. La France est divisée en zones occupées et zones libres, séparées par une ligne de démarcation. L'armistice et l'instauration du régime de Vichy entraînent des répercussions dramatiques pour la population juive en France. Dès octobre 1940, le gouvernement de Vichy promulgue le premier statut des Juifs, instaurant des mesures discriminatoires à leur encontre. Ces lois sont renforcées en juin 1941, excluant les Juifs de nombreuses professions. Ces actions résultent de l'initiative propre du régime de Vichy. Entre 1942 et 1944, environ 76 000 Juifs, dont 11 500 enfants, ont été déportés depuis la France vers les camps de concentration nazis, avec la collaboration active des autorités françaises. C'était le 17 juin 1940.
Merci Jérôme Attal, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi sur RCJ. Dans un instant, retrouvez Postface, votre émission littéraire avec Caroline Gutmann. On se retrouve quant à nous demain dès 8h pour l'information. Très belle journée à l'écoute de notre antenne.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy.
Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android. Postface, Caroline Gutmann.
Parler d'une voix haute, forte, intense, pour éveiller les consciences, faire ouvrir les yeux et nous forcer à conserver notre capacité d'indignation dans un monde de plus en plus indifférent et où surtout règne la pire des choses, l'injustice. Mon invité a ça, à mon avis, dans le sang, cet ADN. Il a toujours eu cette capacité d'indignation et depuis toujours, il s'est élevé pour des causes nobles en défendant des invisibles dans ses romans, dans ses essais, dans son métier de journaliste. Ça lui a valu beaucoup de déboires parce qu'il faut être courageux et que les gens n'aiment pas ça, qu'il y a la force de l'indifférence qui règne. Et là, voilà, je suis très heureux de le recevoir. Jean-Marie Rouard, c'est vous, cet homme de l'indignation, de la résistance. Et vous sortez un livre que j'ai beaucoup aimé, comme d'ailleurs la plupart de vos livres, Drôle de justice, c'est publié chez Albin Michel. Et la force de ce livre, c'est que vous combinez deux genres et on y trouve tous les échos. Il y a d'abord un essai sur votre parcours personnel, votre amour de la lecture, les liens qui s'entretiennent entre la littérature et la justice depuis toujours, et aussi les affaires qui vous ont mené, habité. Et ensuite, une pièce de théâtre, c'est pas la première, hein, c'est peut-être la seconde, il y en a peut-être eu d'autres, la troisième, qui joue entre le vaudeville et le drame, et où on va trouver finalement beaucoup d'échos dans votre démonstration précédente. C'est à la fois une pièce drôle, j'espère vraiment qu'on va vite la jouer, parce qu'elle est terrible par tous les petits coins qui sont cachés. Voilà. Alors, vous présentez à nos auditeurs, ils vous connaissent. Moi, je pense que vous êtes un homme extrêmement drôle et puis sincère. Vous avez raconté aussi bien votre baccalauréat, pour donner du courage à nos joyeux élèves. Vous l'avez raté combien de fois ?
Je l'ai raté un certain nombre de fois, c'est-à-dire le premier, mais c'était l'époque où le bac était très difficile. J'avais choisi la section la plus difficile, c'était le latin-grec.
Ah oui.
Le premier, eh bien, je l'ai passé trois fois, et je l'ai réussi grâce à la course à pied. Et j'ai redoublé ma philosophie, et enfin j'ai raté ma première année de droit. Non, j'étais absolument pas fait pour les études. J'étais marginal,
Mais vous êtes boulimique de lecture.
Et après, je suis devenu. Après, quand même. Mais c'était le bac d'autrefois. Aujourd'hui, j'aurais une mention très bien. Voilà, avec le nouveau bac.
Et puis l'académie, ça n'a pas été aussi une mince affaire.
L'académie, comme pour le bac, j'ai dû me présenter cinq fois. Mais j'en garde un très bon souvenir.
Ouais.
Parce que j'ai jamais été humilié, parce que j'ai toujours eu un certain nombre de voix. C'était des amis, et puis j'étais patronné par Jean d'Ormesson, et on s'amusait beaucoup en Corse, on traçait les noms des gens qui allaient voter pour moi, de ceux qui ne voteraient pas pour moi. C'était très sympathique. Et puis, vous savez, j'ai essayé dans ma vie de ne pas avoir d'amour propre. Mmh. Voilà, essayer de me dire, finalement, c'est social.
Ouais,
mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ça a un peu à voir avec la littérature, mais ce n'est pas complètement un jugement sur les livres qu'on écrit.
Et ce qui est important, je voudrais quand même le dire, c'est les livres que vous avez écrits. Vraiment. Des livres qui sont tous merveilleux, hein, qui sont d'ailleurs beaucoup en poche. J'en donne quelques titres. Vous êtes venu, une jeunesse à l'ombre de la lumière, nous ne savons pas aimer, et puis d'autres. Et où vous avez vraiment ce ton de sincérité, à la fois de pessimiste par rapport à l'existence, et puis quand même du goût de l'illusion, de l'amour, de l'espérance. C'est ça qui est beau, vous mariez les contraires, dans des situations qui sont toujours très belles. Enfin, je trouve que voilà, vos livres sont importants.
Oh, vous êtes gentil. Mais je crois que j'y ajoute aussi, j'ai cette bizarrerie qui est être à la fois désespéré avec beaucoup d'humour. Voilà, oui. J'essaie de mettre beaucoup d'humour. Et je crois que ça, c'est très français. Voilà. Il me semble que l'ADN de la littérature française, c'est à la fois une certaine légèreté d'apparence, mais en même temps, essayer d'avoir un contenu spirituel.
Sorte de politesse de l'âme.
Voilà, c'est la spiritualité très importante pour moi. Voilà, mais j'essaie d'enrober les choses avec de l'humour.
Alors, dans l'essai qui a vraiment des échos avec votre pièce de théâtre, il y a deux moments qui sont importants. Vous êtes tout jeune. D'abord, vous parlez donc, cette phrase, elle est omniprésente, la littérature était ma seule lumière dans un désastre qui me semblait incurable. Et vous racontez comment vous étiez avec votre mère dans un petit appartement étriqué, avec une cour sinistre, et puis votre mère aimante, mais qui était modeste et qui s'était accommodée à tous les malheurs de sa vie. Et il y a une voix qui vous a ouvert sur le monde. Racontez-nous.
Oui, c'était la voix de non, c'était l'équivalent de France Inter, enfin c'est l'ancêtre de France Inter, et c'était une émission qui s'appelait Rendez-vous à 5 heures, et c'était Nathalie Nerval, qui était une russe émigrée, qui lisait un roman, très souvent des romans anglais, voilà. Et avec ma mère, nous écoutions cette émission, et on se trouvait transportés dans une autre vie, qui pouvait être triste d'ailleurs, parce que ce n'était pas des romans forcément gays, mais il y avait une sorte, que c'était merveilleux, c'était à la fois de partager, de communier avec ma mère, donc pour quelque chose qui nous emmenait au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre situation. Voilà, donc c'était une griserie, et je pense que ça jouait un très grand rôle dans ma vocation littéraire.
Alors, vous avez beaucoup parlé dans vos livres du destin. Hein, ça revient, le hasard, le destin. Qu'est-ce qui fait que l'un va réussir et l'autre va aller vers l'échec? Et il y a une scène qui est très importante. Par exemple, je pense que c'est vraiment l'histoire originelle. Vous avez 14 ans. Vous adorez la lecture, vous n'êtes pas très bon élève, vous adorez Stendhal, et il se trouve que vous avez le directeur de l'école, qui est aussi votre professeur de français, et qui adore Stendhal aussi, et vous avez des discussions passionnées avec lui, qui vous mettent un peu à l'écart des autres élèves, ce qui n'est pas toujours si facile d'avoir le préféré d'un professeur, et ça va vous mener vers une histoire terrible. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une injustice dirigée, enfin voulue. Prémédité, au fond.
Oui, c'est très compliqué parce que à la fois ce professeur que j'adorais et lui me manifestait beaucoup d'affection, plus que ça. Un jour, il va me dire que de lui apporter un devoir que je l'avais rendu en retard chez lui. Voilà, donc un samedi, je vais chez lui, je sonne à la porte, il ne répond pas. J'entends du bruit derrière la porte, je ressonne, il ne répond pas. Je glisse mon devoir sous la porte, le rez-de-chaussée, je me souviens, près des Trocadéro. Et puis je rentre chez moi, et le lundi, je suis convoqué au conseil de discipline par tout l'appareil de ce collège, et on m'annonce que je suis renvoyé, il annonce que je suis renvoyé pour homosexualité. Alors ça, j'étais vraiment, si j'avais 14 ans, et je savais à peine un peu ce que c'était que l'homosexualité, mais enfin... Et je me suis rendu compte par la suite, en réfléchissant, parce que ce professeur s'est suicidé
2 ans
plus tard. Ouais, ouais. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il m'avait épargné. Il était tombé amoureux et il avait voulu sans doute aller un peu plus loin. Et par défiance vis-à-vis de lui-même, il m'avait éliminé. Et ce qui avait d'étonnant, évidemment, qu'il ait choisi cette raison de l'homosexualité qu'il désignait. Et alors, on m'a fait passer des tests à l'Institut Claparède. On m'a montré des femmes nues, des hommes nus. Et finalement, on a décidé que je n'étais pas homosexuel. Et non, je ne l'étais pas, mais ça paraît très moyenâgeux aujourd'hui, parce que plus personne ne peut être renvoyé d'un collège pour homosexualité. Et même à l'époque, ça paraissait absurde.
Mais là, ça vous montre quand même un système, un dispositif, vous l'écrivez, c'est une sorte de mise en scène judiciaire d'une faute non commise. Et ça, vous allez le retrouver dans beaucoup d'affaires dont vous êtes occupé. C'est
oui,
ça qui est terrible.
Mais vous savez, toutes ces affaires douloureuses, parce que j'ai été renvoyé d'un collège, c'était bon. Heureusement, j'avais des parents merveilleux, qui étaient très compréhensifs. Eh bien, ce sont des expériences. Et ça, c'est après, je suis autre injustice. Je suis passé devant la 17e chambre correctionnelle. J'étais condamné lourdement, mais c'est aussi une expérience. Et la vie, vous savez, il faut multiplier les expériences parce que ça vous permet d'être proche des autres. Sinon, vous ne les comprenez pas. Vous croyez les comprendre, mais tant que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas été dans un tribunal. Et vous êtes fait insulter par le président du tribunal, condamné, humilié, vous ne savez pas ce que c'est qu'un tribunal. Eh bien, moi, toutes ces expériences de la vie, je ne dis pas que j'en suis enchanté, non, mais ce qui pour moi est le plus important, c'est comprendre les autres. Et je dois dire, j'adore la phrase de Romain Gary, dit « j'ai mal chez les autres ». Et moi, j'ai profondément mal chez les autres, mais c'est parce que aussi je l'ai vécu.
Mais ce qui est fort dans toutes vos expériences et dans vos livres, c'est cette empathie que vous avez à la fois pour vos personnages, pour les causes que vous avez défendues. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Omar Haddad, vous sentez dans la peau d'Omar Haddad, les prostituées, vous comprenez de l'intérieur. Ça, c'est quand même le travail d'un romancier, mais que vous l'appliquez au réel aussi, à votre vie. D'avoir cette sensibilité-là pour les SDF, ça, on partage ça. Moi, je suis malheureuse quand je vois quelqu'un qui m'en dit à terre et je me dis pourquoi on est coupable, au fond.
Je crois que si on a du goût pour la littérature, c'est qu'on a du goût pour l'humain. C'est-à-dire, on veut essayer de donner un sens à l'humanité. Et les romanciers, vous savez, et non seulement ça, mais ils sont un peu anarchistes. Voilà. Et même très souvent, beaucoup anarchistes.
C'est le sous-titre de votre
livre. Et moi,
livre.
Je me sens bizarrement, même si j'étais journaliste au Figaro ou dans des journaux qui étaient plutôt à droite, mais je me suis toujours senti anarchiste, et je crois que les écrivains le sont, parce qu'au fond, ils défendent la loi naturelle contre la loi sociale. Et la loi sociale, la loi tout court, il faut bien reconnaître à quel point elle a pu changer. Il faut savoir qu'en 1942, on a guillotiné une avorteuse sur l'avortement, regardez, le changement diamétral, sur l'adultère. Sur, encore récemment, je veux dire, une femme qui trompait son mari, eh bien, le mari pouvait divorcer pour faute. Voyez. Mais enfin, bon, sur beaucoup de choses, les lois, si vous voulez, sur la torture, l'Ancien Régime usait de la torture tous les jours. Ouais. Donc, je crois que cette loi, il faut garder vis-à-vis d'elle une certaine distance et ne pas se dire, c'est la loi, donc c'est juste. Non. Il y a des lois abjectes. Je ne veux pas parler des lois de Vichy sur les Juifs, mais c'était typique. Ouais. C'est typique. Ouais. Bon, il y a une loi, bon, il fallait lui obéir. Heureusement, beaucoup de gens n'ont pas obéi.
Alors, on va parler des affaires dont vous êtes occupé, parce que vous les racontez de l'intérieur, c'est tout à fait intéressant, mais il y a un point que je trouve intéressant quand vous parlez du fossé entre les magistrats et les avocats, et vous parlez de l'école de la magistrature en disant que ça a été le point de départ d'une incompréhension de l'humain, justement, parce qu'il y a cette école, un peu une caste, et puis pas de contact avec les autres, avec le peuple, avec les gens. Et que ça a été un point de faussement, quoi.
Oui, c'est un livre très impressionniste, mais en même temps, je propose des réformes. Même si j'ai raté ma première année de droit, vous voyez.
c'est intéressant.
Et en ce qui concerne l'école de la magistrature, je crois que c'est une profonde erreur que ces magistrats n'aient aucune connaissance réelle de la vie et qu'ils n'aient pas été d'abord avocats. Maintenant, l'école de la magistrature, c'est une école qui est faite contre les avocats. Pour... Mmh. Et c'est une erreur, parce que la justice, la systole et la diastole de la justice, c'est
l'équité.
Justement la plaidoirie et le réquisitoire. Ouais. C'est entre les deux. Mmh. Et il y a des pays comme le Canada, qui est bien en avance sur nous, il faut avoir été 10 ans avocat avant de devenir magistrat. Et c'est ce qui explique l'inhumanité de beaucoup de décisions de justice. Moi, je crois que c'est le pire défaut de la justice aujourd'hui, c'est qu'elle est inhumaine. On voit, d'ailleurs, parlez-en aux avocats, comment ils sont traités par les magistrats, avec une superbe... Et ça s'est introduit également dans la cour d'assises. Maintenant, les cours d'assises, on l'a introduit. Et ça, c'est une introduction de Vichy. On a introduit des magistrats, 3 magistrats dans les cours d'assises, et ce sont eux qui décident, parce que les malheureux jurés populaires... n'ont pas, ils croient ne pas avoir la compétence. Tout le monde est compétent en matière de justice. Mmh. Et ça, c'est une... Alors qu'autrefois, c'était comme dans le film « 12 hommes en colère », c'était des magistrats populaires qui décidaient. Voilà. Ouais, ouais. Et ça, c'est une... Là aussi, et je l'ai vu dans une affaire terrible que je me suis occupé, c'est l'affaire Omar Haddad.
Ouais.
Et l'affaire Omar Haddad, vous savez que c'est une femme qui avait été horriblement torturée.
Ah oui, et ça j'avais oublié qu'elle avait été torturée, la mâchoire arrachée, épouvantable.
Et le jugement qui a été décidé surtout par le président du tribunal, M. Jian, eh bien, il considérait qu'elle était coupable, mais les jurés considéraient qu'elle était innocente. On va couper la poire en deux, il sera condamné à 18 ans de réclusion, avec les circonstances atténuantes. Qu'est-ce que ça veut dire, les circonstances atténuantes? C'est monstrueux. Ça montre bien l'emprise des magistrats sur les jurés.
Et là, c'est passionnant. D'ailleurs, quand vous revenez, vous avez consacré 2 livres à cette affaire. Déjà, ce que vous voyez tout de suite d'invraisemblance, tout de suite, vous voyez beaucoup de choses qui ne collent pas. Voilà pourquoi la famille prend un avocat d'une telle stature. Déjà, il y a quelque chose qui ne colle pas, beaucoup de choses qui ne collent pas. Et puis vous décrivez par exemple Vergès. Le portrait de Vergès est formidable parce que personnage pervers. On sait qu'il a défendu. Et vous dites de lui, il me faisait penser à une mitraillette égarée dans un sac Hermès. C'est une sorte de diable dépourvu de méchanceté. Et il est étonnant. Enfin, c'était son portrait formidable.
Oui, parce que c'était une sorte de dandy gauchiste. Il prenait toujours les causes les plus subversives toute sa vie. Mais c'était un homme d'une très grande culture et en même temps d'un très grand idéal. Voilà. Et enfin, dans l'affaire Omar Haddad, un homme formidable. Il a consacré vraiment beaucoup d'années de sa vie.
Mais la famille Marshall vous a poursuivi quand même.
Oui, j'étais poursuivi, condamné à 100 000 euros de dommages et intérêts. Et puis j'ai été viré du Figaro, conséquence.
Est-ce que vous dites d'ailleurs, vous dites, c'est drôle, Dibouk vous a fait revenir 10 ans après, c'est drôle.
Il n'y a rien de pire qu'une vie où il ne se passe rien, où on est là sans s'engager. Moi, je ne regrette pas, souffert de l'injustice, parce que je pense que ça m'a peut-être... amélioré spirituellement.
Vous avez quand même cité cette affaire, j'avais complètement oublié, Roger Baudourian, cet Arménien que vous avez défendu au Figaro, qui disait qu'il avait été grugé par des grandes compagnies pétrolières, et ça vous a valu beaucoup de problèmes, ans après, on a vu que
j'avais eu raison, oui.
Vous aviez raison.
Mais c'est vrai que c'était complètement fou, moi, jeune journaliste, de m'attaquer aux compagnies pétrolières. C'était quelque chose de... Mais, si vous voulez, il y a une grâce d'État, c'est-à-dire que quand vous défendez une cause juste, finalement, et moi j'ai toujours eu des anges gardiens, eh bien, quand vous défendez une cause juste, vous êtes soutenu par quelque chose de mystérieux. Et ce qui m'a permis de comprendre... Les héros, je ne suis pas du tout un héros, mais les héros. Quelquefois, eh bien, il y a une grâce. Il y a une grâce qui vous permet de faire des choses folles.
Oui. Vous citez, ça c'est très intéressant aussi, l'aveuglement de certains juges pour des suicides opportuns. Il y a toute la liste de toutes les affaires où, vous citez d'ailleurs l'affaire du juge Bernard Borel à Djibouti, dont le cadavre trouvé est déclaré brûlé par auto-aspersion d'essence, avant qu'une contre-expertise ne finisse par admettre, bien des années plus tard, qu'il s'agissait d'un assassinat pur et simple. Et vous citez un nombre d'affaires qu'on a oubliées, mais c'est terrifiant.
Notamment les disparus de Lyon, qui est vraiment...
Ah oui, c'est terrible.
Qui est vraiment une affaire effroyable, et où le seul personne, les juges, ont fait semblant de rien voir. Il y avait 14 jeunes filles qui avaient été assassinées, et il y a un gendarme, le juge Jambert, qui s'est battu, et il s'est battu. Et le jour où il y a eu enfin le procès, eh bien, on a découvert qu'il s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Et là, les juges, qui ne sont pas très forts en balistique, 2 balles dans la tête pour un suicide, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, hein, tout petit peu. Ben c'est formidable, c'est des choses qu'on ne regarde pas, qu'on ne veut pas voir. Alors là où c'est passionnant aussi dans votre livre, c'est les liens entre la littérature et, et la justice. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais Sophocle, Euripide, tous, l'Iliade, l'Odyssée, il y a un coupable, il y a l'idée d'un coupable, et puis au 19e, on sait tous les Jean Valjean et tout le reste, Zola, enfin, l'idée que, voilà, l'écrivain est là pour réparer, pour éclairer et réparer. Ça, vous le montrez très bien. Et puis, il y a une nouvelle dont vous parlez, qui est magnifique, celle de Maupassant, Boule de Suif, où il y a tout ce système, qui va être d'ailleurs dans votre pièce de théâtre, mais on n'en dit pas plus, où on va désigner la victime, et on va la désigner pour protéger la bourgeoisie. Boule de Suif, c'est une nouvelle
c'est
magnifique.
C'est pas seulement la bourgeoisie, c'est la société.
La société.
Vous savez, ça se reproduit toutes les sociétés, y compris dans la société communiste, dans toutes les sociétés. Je pense même peut-être dans la vie syndicale. Il y a une protection. Les gens, quand ils sont un certain nombre, eh bien, ils se protègent et ils protègent leur turpitude. C'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est dans la bourgeoisie. Et je cite un livre magnifique de Tolstoï qui s'appelle Résurrection.
Ça m'a donné envie de le lire.
Ah oui, c'est un livre extraordinaire qui montre. C'est un prince, un jeune prince qui, chez sa tante, qui tombe amoureux de la gouvernante, qui était une ravissante jeune fille. Il la met enceinte. Bien entendu, elle est rejetée, elle est renvoyée, et elle finit dans la prostitution. Et plus tard, il va être le juge de cette fille dans un procès parce qu'elle a été associée à un meurtre. Mmh. Et là, on voit bien. C'est terrible parce que c'est, en effet, la société juge des gens qu'elle a contraints, justement, à des turpitudes.
C'est très fort. Il y a toutes les histoires de SDF. Alors, je ne connais pas ce texte de Marcel Aimé où il y a un clochard qui va... Et en même temps, ça vous fait penser à cette affaire à Roissy du SDF martiniquais, qui était un pauvre type qui vivait à l'aéroport de petites choses, et puis un jour il va être face aux forces armées de la police et ils vont l'abattre. Alors il tenait un couteau.
Il avait un canif.
Il avait un canif, ça voulait rien dire.
Il y avait 4 personnes avec des fusils mitrailleurs, 4 policiers. Il a été abattu. Moi, ça m'a dévasté. D'ailleurs, j'ai fait une chronique dans le journal Libération. Et ça m'a dévasté parce que c'était vraiment affreux de se dire que 4 fusils mitrailleurs devant un malheureux Martiniquais qui avait ce petit canif et qui était certainement un emmerdeur. Mais est-ce qu'il faut fusiller les emmerdeurs? Donc vraiment, c'est affreux. Ça montre cette indifférence à la mort à certains moments des forces publiques.
Et là, vous parlez de ce peuple de l'abîme qui vous émeut sans cesse, et je voudrais lire ce passage. Donc, justement, d'où vient que devant le destin tragique de ce malheureux SDF martiniquais, je me sente coupable? Coupable aussi d'affronter le regard plein de honte de ses congénères qui fouillent le soir dans les poubelles. Quel parc a tissé le fil de destinée si déshéritée? Quelle autre parc bienveillante m'a épargné? Car il ne s'agit pas là d'injustice de classe, d'opposition entre riches et pauvres, mais de cette mystérieuse élection entre ceux qui restent à flot, tant bien que mal, et ceux qui, touchés à la racine de leur dignité, sombrent corps et biens. Ça, c'est vrai.
Oui, c'est un des grands mystères que j'éprouve, mais que tout le monde doit éprouver.
Moi, il y a des gens qui sont aseptisés,
les clochards,
qui sentent
des
rien.
Gens qui vivent dans les rues et qui fouillent.
Je ne suis pas sûr. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui...
Vous ne croyez pas.
Ah non, je suis plus
pessimiste. Non, mais je crois que c'est aussi... Je ne parle pas de la pauvreté, ce qui est une bonne question, mais je parle des gens qui s'enferment dans cette misère, qui ne veulent pas en sortir et qui dans une sorte de suicide social qui était affreux. Et je crois que leur problème, mais là, est d'ordre psychanalytique. Ce sont les gens qui ont été écrasés par le malheur.
Je ne suis pas sûre. Il y a un moment où c'est très difficile de s'en sortir. Ouais. Il y avait le livre, vous savez, de Clercq sur les clochards, qui disait qu'il y a un moment où on n'en revenait pas. C'est très difficile de revenir. Quand on est à terre, qu'on a tout perdu, je pense que ça doit être très difficile. Alors, on va parler un peu de votre pièce de théâtre. Moi, j'espère qu'elle va être vite jouée. Mais j'adore lire le théâtre. Alors, on va tout de suite montrer le côté. On est chez un président, donc un magistrat, maison luxueuse, une belle petite famille, avec le fils qui est un peu un glandeur, on va dire, mais contraint aussi à faire autre chose que ce qu'il aime, qui est l'ébénisterie, parce que le père veut tout réguler. Il y a la femme, l'épouse, qui est bien comme il faut, aimante, gentille. Elle a des désirs, hein, comme toutes les femmes. Et elle vient de la psychanalyse. Elle a été interne à Sainte-Anne. Et puis, une petite jeune fille, un peu écervelée, qui pense qu'à se marier, et surtout avoir dans son mariage un orchestre qui va coûter très cher. Les Wendy System, je ne sais pas comment vous les appelez. Et puis, un commissaire qui est un peu vénal. C'est-à-dire que, bon, il attend de l'avancement. Voilà, il peut être protégé. Enfin, tous ces êtres-là sont fragiles. Très fragile. Et le point de départ, ça commence comme un vaudeville. Donc le président, il attend une nomination importante à la Cour de cassation. Donc le téléphone doit rester libre, il est fou furieux. Et donc il est penché sur ses cartes à jouer. Bon, le président, après un temps de méchante humeur, mince, flûte, crotte de bique, et puis merde, il repousse les cartes d'un air furieux. Il marche dans la pièce en comptant consciencieusement ses pas. 6, 8, 13, et encore merde! Il recommence en diminuant la longueur de ses pas. Ah non, décidément, la chance n'est pas avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fout donc à la chancellerie? Ils dorment, comme d'habitude, et ce petit déjeuner qui n'est toujours pas servi. Il appelle la domestique. Mais Rosalie, Rosalie, personne ne répond. Il hurle, Eugénie, Eugénie, ça c'est sa femme. Voilà, Rosalie est un personnage aussi très important. Et là, la force de votre pièce, c'est que par petites touches, on va comprendre des choses plus glauques, enfin, sur ce président qui a sa mère en train de mourir à l'hôpital, et il veut jouer à l'indifférent, et puis il dit que finalement sa mère l'a jamais aimé, et qu'il est comme un orphelin avec une mère vivante. Bon, est-ce que ça peut expliquer son égoïsme total?
Je crois que,
total,
vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud. Mm-hmm. Freud disait, donnez-moi de meilleures mères, je vous ferai un monde meilleur. Parce que je crois que très profondément, et c'est le cas de cet ambitieux arriviste magistrat, au fond, il n'a pas été aimé, et quand on n'a pas été aimé très souvent, on n'arrive pas à aimer les autres. Et on manifeste un despotisme, on essaie de les blesser. Voilà. Je crois que la vie est tellement complexe, et c'est ce qui est passionnant. Ce qui est passionnant. Ouais. Mais j'ai essayé de montrer le tragique de ce destin d'un homme qui, peut-être que s'il avait été aimé, aurait été beaucoup plus ouvert sur les autres, moins intransigeant, mais en même temps être drôle. Parce que je crois que le théâtre se doit d'être amusant, drôle, parce que les gens viennent et ont fait du chemin, ils ont réservé leur soirée. Et puis c'est ma position en matière artistique. Je crois qu'il faut, même pour aborder les choses sérieuses, il faut aussi le voir d'une façon avec humour.
Alors, c'est vrai que ces enfants sont tout à fait lucides sur leur père. Il y a un moment où le fils dit, papa, c'est un Paganini de l'arrivisme. Donc il est exaspéré par son père. Il lui contraint en secret de faire son goût pour l'ébénisterie. Et puis voilà, il rudoie tout le monde, il se met tout le monde à dos. La petite, elle pense qu'à son mariage. Il y a quand même un égoïsme, ils vivent les uns à côté des autres. Et puis il y a un drame, on va rien révéler, mais la femme de ménage, Rosalie, qui se dévoue pour la famille, à une petite fille, et cette petite Jeannette va apparemment être très malmenée. Et voilà ce que dit le président au commissaire. Crime ? Mais comment allez-vous vite en besogne ? Est-ce bien sûr que ce soit un crime ? Avant de s'avancer, il faut attendre les résultats de l'autopsie. Si on veut faire les choses sérieusement, ça peut prendre un certain temps. D'ailleurs, je connais bien le médecin légiste, je lui en parlerai. C'est un homme raisonnable. Qui dit que ce n'est pas un accident? Or, il y a bien des petites filles qui s'étranglent avec leur corde à sauter. Et évidemment, à 7 ans, c'est difficile de parler de suicide. Dommage, la version du suicide, c'est une bénédiction dans certaines affaires délicates. Vous voyez ce que je veux dire? le commissaire, c'est vrai que parfois ça évite beaucoup de paperasse. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Et ça, ça peut se passer. Ça.
Bien sûr, vous imaginez. Non, c'est, ça, c'est hélas. J'essaie de montrer, en effet, les failles de tout ce système judiciaire et comment toute société a besoin d'un coupable. Et là, cette famille a besoin d'un coupable pour éviter le déshonneur. Et donc, mais ça, c'est très très courant. C'est le bouc émissaire.
Ce que vous montrez très très bien, c'est toutes les petites choses vicieuses, les souvenirs glauques qui remontent. Vous en dites pas plus, parce qu'il y a beaucoup de choses ouvertes. La fin est ouverte, d'ailleurs. On a compris beaucoup, mais c'est pas décidé. Et c'est ça qu'ils sont tous avec leurs secrets. Mmh. Des doubles secrets, des triples secrets. Tous les personnages. Hein. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, qui n'est pas si facile à faire, je pense, dans une pièce de théâtre. Il faut faire rire et en même temps garder une subtilité des personnages.
Oui, parce que je crois, c'est vrai, en matière artistique, que ce soit pour les romans, il faut que ce soit le lecteur ou le spectateur qui termine la pièce. Parce qu'il faut que cette pièce vive chez le lecteur ou chez le spectateur et qu'au fond, il termine la pièce, que ça remue en lui un certain nombre d'émotions, de sentiments, voilà, et que ça puisse l'aider à vivre. Moi, je crois que la littérature, puisque la justice existera toujours dans notre vie privée, dans la vie publique, dans les institutions judiciaires, mais je crois que ce qui est important, c'est pour ça qu'à un moment, je parle de l'abbé Stock, qui confessait les résistants. Vous savez, pendant la guerre, et ces gens de 20 ans qui allaient mourir, et il les confessait, il essayait de leur donner une espérance. Eh bien, je crois que la littérature, elle donne un sens à l'injustice. Quand nous vivons une injustice, je crois que la force, quand on peut ne rien faire, eh bien, je crois que la force, c'est d'essayer de lui donner un sens spirituel. Et de se dire, il y a tellement de gens extraordinaires qui ont vécu... Même, regardez la fin de la vie épouvantable de Léonard de Vinci, enfin, dans tous les domaines. Et il me semble aussi que ce sentiment d'injustice a été fondateur au fond de notre civilisation, puisque nous avons deux personnalités extraordinaires qui sont victimes de l'injustice, c'est Socrate, et surtout Jésus, parce que Jésus a quand même été... Voilà, et que c'est très curieux de voir que notre société s'est construite sur deux injustices, et qu'ensuite, elle a contribué à créer d'autres injustices, puisque le Vatican a participé à un certain nombre de choses qui n'étaient pas très belles, comme les croisades et bien d'autres choses. Mais c'est ça, il faut, je crois, revenir à cette idée que l'injustice, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc, grâce à la littérature, on peut lui donner un sens.
Peut-être quand même un petit peu la limiter, peut-être quand même, l'injustice.
On peut essayer de la limiter, mais vous savez, il y a déjà de l'injustice qui fait partie de la condition d'être homme, femme. Voilà. On va vivre des injustices quand vous avez un enfant malade, quand vous avez des parents qui disparaissent. C'est atroce. C'est inscrit dans notre vie. Mais il faut essayer... Et quelquefois, vous voyez, la mort de la grand-mère dans Proust, eh bien, ça aide. On lit le livre, on voit ce passage où il parle avec émotion de la mort de sa grand-mère, et ça nous aide nous-mêmes quand les mêmes choses nous arrivent.
Oui, c'est vrai. Dites-moi aussi, donc, troisième pièce de théâtre, qu'est-ce que vous apporte le théâtre? À partir de quand vous avez eu envie d'écrire une pièce de théâtre?
Oh, ça fait très longtemps, mais c'était surtout... autour de la question de la justice, vous avez raison. Parce que la première pièce, c'était sur Gorki, sur la décision de Gorki de quitter son exil doré à Capri pour rentrer en Union soviétique et d'être un soutien du régime de Staline. Et ça a été épouvantable, puisque vous savez qu'il a été plus ou moins liquidé par Staline.
Ouais.
Et donc j'avais fait cette pièce, et ensuite j'ai fait une pièce sur l'Indochine, dans laquelle j'ai voulu montrer tous les aspects de l'Indochine, pas seulement... les ravages du colonialisme, mais aussi, disons, tous les points de vue. Je ne veux pas, si vous voulez, je crois que la littérature n'est pas faite pour donner des leçons aux hommes, mais pour essayer de leur montrer à quel point toute vie est difficile et essayer de les comprendre.
Mais le théâtre, est-ce que ça vous ouvre une autre porte pour la démonstration de ce que vous voulez exprimer? Par rapport à un roman, par rapport à un essai?
Je dirais que c'est légèrement plus collectif, comme le journalisme. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le journalisme, mais les salles de rédaction, les discussions, les ennuis aussi, qui peuvent arriver avec puisque j'ai été viré deux fois le FIA.
Deux fois, c'est pas mal.
Mauriac n'avait été viré qu'une seule fois.
Ouais, c'est pas mal.
Mais c'est collectif, et bien le théâtre aussi c'est collectif. Vous avez un metteur en scène, des acteurs, et c'est très intéressant de les voir réagir aux mots que vous avez écrits.
Je pense que la pièce, elle peut être réécrite. C'est-à-dire, selon les réactions du public, est-ce que ça, vous imaginez ça? Tout d'un coup, vous allez assister à plusieurs représentations et vous allez vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans ce rapport avec le public, je ne sais pas.
Forcément, oui, je pense au théâtre, le public est très important, bien sûr. Mais c'est pas non plus, il ne faut pas être l'esclave du public. C'est parce que ça serait affreux, que ce soit dans le roman ou dans le... Si vous voulez faire écrire uniquement pour plaire au public, franchement, il vaut mieux faire autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce qui est important, c'est de faire passer un message qui est... justement, qui apporte, qui donne un sens pour chaque spectateur, qui donne un sens à sa vie.
Oui, et c'est vrai que cette expérience d'être assisté à une pièce de théâtre et de vivre le texte par le biais des acteurs, c'est quelque chose, on est actif finalement.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est très fort. Et ça peut justement, je t'en ai un sursaut. Vous parlez dans ce livre un moment de Zweig et de ce que vous voyez actuellement sur la façon dont vous l'écrivez. À notre manière, nous sommes tous des Indiens d'Amérique colonisés par une modernisation impitoyable qui éradique non seulement ce qui constitue notre milieu naturel mais nos habitudes. Et donc vous parlez de ce texte de Zweig, la monotonisation du monde, phénomène planétaire. Ça, vous le ressentez profondément.
Ah oui. Et c'est le texte de Zweig sur la monotonisation du monde.
L'ennui américain.
Elle est de 1922. Vous voyez, il a pressenti, c'est ce qui est merveilleux chez Zweig, il a pressenti comment l'humanité allait devenir de moins en moins humaine, envahie par la publicité, par le système capitaliste. Le capitalisme, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on écarte. Est-ce que nous sommes encore des citoyens? On est des consommateurs, c'est terrible. Et ça, Zweig l'a parfaitement senti, parce que c'était un homme qui, justement, était un homme de compréhension d'humanité et un archi-littéraire. Voilà. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est que cette humanité et la littérature se conjuguent.
Ouais. Vous parlez aussi de la laideur de la société, la laideur qu'on impose.
Oui, c'est terrible. La laideur des banlieues qui ont été avec ces constructions monstrueuses qui montrent, hélas, que les édiles sont très sensibles aux promoteurs immobiliers. Voilà, c'est affreux, c'est terrible. Vous savez, la vie est une souffrance permanente, et si on est un peu sensible, mais il faut pouvoir l'affronter. Je crois qu'il faut. Pour moi, le moyen de l'affronter, c'est d'essayer de trouver. De se confronter aux grands esprits.
Par la littérature. Ah oui.
Lire Proust. Voilà. Et j'ai cette chance d'avoir fréquenté très tôt et d'avoir eu un dialogue avec eux pendant
Et d'exercer sa vigilance grâce à eux. Je pense que c'est le meilleur moment. Parce que dans cette société où tout est TikTok et réseaux sociaux et plus de lecture, il faut vraiment trouver un moyen pour avoir des respirations, je ne sais pas comment, ou une façon plus moderne de faire ce que faisait Madame Nerval. Je ne sais pas. Ce qu'on peut inventer pour un public qui lit des textes insipides et qui n'en sort pas.
Mais le paradoxe, c'est que notre société d'aujourd'hui, qui a perdu toutes ses traditions anciennes, qui était une forme de culture, eh bien, jamais elle n'a plus autant besoin de se ressourcer dans la littérature. Et jamais elle était aussi éloignée. C'est ça qui est affreux. Nous sommes dans une société qui n'est plus littéraire. La France est un pays dont l'unité était faite notamment par la littérature. Eh bien, ça, c'est très, très dommage. Et les pouvoirs publics ne font rien. Au contraire, sur le plan de l'éducation, ils ne font rien. Et puis même, sur le plan, on le voit bien, le ministre, il y a une inculture qui règne, qui est effrayante.
Ah, faut ici saluer les libraires qui se battent comme des chiens.
Mais enfin, qui disparaissent,
mais qui se battent pour trouver des idées, parce que pour essayer de faire venir les gens. Alors c'est pas toujours les auteurs qu'on invite, c'est d'autres idées, je ne sais pas lesquelles, mais tout ce qu'on peut faire pour faire venir le public, mêler la chanson au texte, pourquoi pas, des lectures, tout ce qui est possible pour faire venir des gens qui ne lisent pas.
Oui, parce que cette littérature, c'était une façon d'unifier les Français, ils se retrouvaient tous, quelle que soit la classe sociale. Vous aviez des ouvriers, des bourgeois, des aristocrates qui se retrouvaient autour des Misérables de Victor Hugo.
Ouais.
Parce que la littérature, c'était le lien. Et vous avez des gens de droite qui lisaient les Aragon, des gens de gauche qui lisaient Jean d'Ormesson. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça qui était merveilleux dans la littérature, c'est que ça unit les gens au-delà de la politique, alors que la politique les divise.
Ouais. Bon, il faut lire, il faut déjà vous lire, cette drôle de justice. Moi, j'attends la pièce de théâtre, mais déjà, on peut la lire. Moi, j'adore lire le théâtre, donc ça me suffit, mais je serais contente de l'avoir joué. Et puis, c'est vrai que c'est un livre qui éveille votre conscience. Des choses qu'on a oubliées, qu'on ne veut pas regarder. Et c'est ça, le bienfait de la littérature, c'est vraiment de vous faire déguiser votre regard. Jean-Marie Roire, merci. Donc, votre livre est publié chez Albin Michel, Drôle de justice, et sous-titre Confession d'un anarchiste de droite. Merci. Merci.
Écoutez-nous 24 heures sur 24 sur le DAB+ et l'application RCJ à télécharger sur Apple et Android.
Les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.
Bonjour, nous avons vu la semaine dernière comment Robert Badinter était devenu un avocat plaidant des causes célèbres et bien rémunéré. Il va plaider au début des années 1970 dans une affaire criminelle grave qui est l'affaire Buffet-Bontemps. Buffet-Bontemps était détenu à la centrale de Clairvaux. Il tente de s'échapper et Buffet tue une infirmière et un gendarme en les égorgeant. Indéniablement, Bontemps était le complice Buffet, mais il n'a pas tué. Buffet reconnaît ses crimes, d'ailleurs, et il dit qu'il veut mourir. Bontemps, lui, n'a pas tué. Et donc, Robert Badinter pense qu'il peut sauver sa tête, mais la cour d'assises, et là, il n'y avait pas d'appel à l'époque, et pas d'appel en assises, la cour d'assises condamne également Bontemps à la peine de mort. Robert Badinter essaye d'obtenir la grâce de la part du président Pompidou en rappelant qu'il est complice, certes, mais il n'a pas tué et donc qu'il soit condamné à la réclusion à perpétuité paraîtrait normal, mais pas à la peine de mort pour les raisons que j'ai indiquées. Malgré son argumentation, ça ne suffit pas à convaincre le président Pompidou qui condamne les deux criminels à la peine de mort. Robert Badinter est choqué par cette décision. Il est choqué parce que il considère que la peine de mort est déjà discutable en elle-même, il l'avait dit à plusieurs reprises dans les années 60, et là, on exécute non pas un innocent, mais quelqu'un qui, logiquement, ne devait pas mourir. Donc il assiste à l'exécution de son client, comme c'est la règle, et il en est bouleversé, Et il racontera très vite, en 1973, dans un livre qui s'appellera « L'exécution », puisqu'il rappellera souvent, à ce moment-là et plus tard, que la peine de mort, ça consiste à prendre un être vivant et à le couper en deux, ce qui est tout de même l'horreur absolue. Il va continuer ce combat dans les années 1970 avec l'affaire Patrick Henry en 1976. Le crime de Patrick Henry qui a tué un enfant de 8 mois, je crois, est particulièrement révélateur. Patrick Henry était un de ceux qui, quand on a découvert le crime, est allé hurler pour qu'on condamne à mort l'assassin, pour tromper son monde, puisque l'assassin c'était lui. Et donc l'homme est particulièrement odieux aux yeux de l'opinion, et tout le monde considère qu'on ne voit pas comment il pourrait échapper à la peine de mort après s'en être pris à un quasi-nourrisson, un bébé de quelques mois. Eh bien non, il ne va pas être condamné à mort grâce à la défense de Robert Badinter, qui va obtenir de la part du jury, en plaidant non pas pour Patrick Henry, mais contre la peine de mort, qui va obtenir que le jury transforme cette peine attendue, mais non reconnue par le jury, en réclusion criminelle réclusion criminelle à perpétuité. C'est un grand succès pour lui, et là le débat commence à se réinstaurer en France sur la peine de mort. Il avait existé à plusieurs périodes, notamment au XIXe siècle, où des gens comme Lamartine ou Victor Hugo étaient très hostiles à la peine de mort. On connaît le livre de Victor Hugo, « Les derniers jours d'un condamné ». Et puis, au début du XXe siècle, Aristide Briand et le président Falière ont essayé d'abolir la peine de mort, mais ils y ont failli y parvenir, mais au dernier moment, un crime épouvantable a eu lieu, et donc l'abolition n'a pas eu lieu, elle. Mais là, Badinter, grâce à ce qu'il a obtenu, va pouvoir continuer ce combat. Il va sauver la vie de plusieurs assassins, mais la peine de mort n'est pas abolie. Giscard d'Estaing et la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat ne sont pas prêts à abolir cette peine de mort. Mais les choses vont changer parce que Robert Badinter va faire de la politique.
C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.
Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et Déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et Déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
BainetDeco.fr.
Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là, chaque seconde, auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org.
mda-france.org.
Du coup, je pense que je vais chanter.
Non, mais attention. Ah, c'est moi, l'attention. Hein. C'est pas la démocratie, c'est une dictature ici. C'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bondy et Friends, avec notamment Samuel Bondy, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr, Bondy, Paris.
Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France, vous vous sentez seul ou vous connaissez un proche dans cette situation. Partage le programme de lien social du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nos bénévoles sont à votre écoute et à vos côtés pour des appels et des visites de convivialité. Véritable soutien pour les aidants, nous participons à améliorer le quotidien de vos proches. Contactez-nous dès à présent au 01 42 17 11 29. 01 42 17 11 29.
Bonjour, les frères Nakache. Nous serons le 10 septembre prochain en concert, salle Gaveau. On va se revoir, se retrouver. Bienvenue.
Retrouvez les frères Nakache en concert, mercredi 10 septembre, 20h, salle Gaveau. Réservation, salgaveau.com et au 01 49 53 05 07, les frères Nakache en concert avec le soutien de RCJ.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.
Don't stop me,
hey, hey, hey.
Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me. un média du Fonds social juif unifié.